Au quotidien, avec Clotilde Seille.
Bonjour mes amis et bonjour à vous. Si peut-être vous venez seulement de vous joindre à nous, c'est Clotilde Seille sur les ondes de Canal M qui poursuit la lecture des journaux. Et comme je vous l'avais annoncé dans la première heure de cette émission, on va maintenant passer un bon petit moment sur tout ce qui s'est écrit suite à ce référendum écossais qui, vous le savez maintenant, a donné la faveur au non.
Swans, swims, warning, who has caught us, they want.
Alors, un petit spécial l'Écosse, parce qu'évidemment, dans tous les journaux ce matin de la province, il en est question. Alors, commençons, tiens, par Le Devoir, sous la plume de Christian Rioux. Voici la seconde partie de sa chronique de ce matin. La campagne référendaire écossaise aura mis en lumière les limites d'un certain discours sur l'indépendance. Difficile de ne pas y décerner les mêmes travers que dans les campagnes québécoises de 80 et 95, un temps les Écossais nous renvoient une image déformée de nous-mêmes. Je veux parler, dit Christian Rioux, de cette idée selon laquelle on ferait l'indépendance pour rapatrier ses impôts, augmenter son niveau de vie et faire fructifier ses rières. Je ne nie pas l'intérêt de ces questions. Il est évidemment utile de s'interroger sur la dette, sur la transition monétaire et ce qu'il adviendra des pensions et de l'armée. Mais osons poser la question de fond. Où, dans quel pays a-t-on vu un peuple faire l'indépendance pour augmenter son niveau de vie? Nulle part. L'indépendance n'est pas d'abord une affaire économique, mais bien qu'elle puisse l'être aussi. Tout comme elle n'est pas non plus d'abord une affaire culturelle ou de simple survivance linguistique, comme on le croit trop souvent au Québec. De l'Irlande à la Slovaquie, de la Slovénie à la Norvège, les peuples qui deviennent souverains le font d'abord pour conquérir leur liberté politique, pour exister dans le monde, faire entendre une voix originale et s'assumer totalement. Ceux qui ne cherchent que la survivance culturelle n'ont pas besoin d'indépendance. L'autonomie culturelle leur suffit, comme le montre bien le Québec. Ceux qui ne cherchent que les succès économiques n'ont pas non plus besoin de l'indépendance, comme l'a amplement démontré l'Écosse pendant 3 siècles. L'indépendance, dit Christian Rioux, c'est d'abord affaire de volonté politique, comme disait le grand historien québécois Maurice Séguin, dont on soulignait récemment le 30e anniversaire de la disparition. L'indépendance, c'était agir par soi, disait-il. Elle était, selon lui, la seule façon de réconcilier l'économie, la culture et la politique. C'est pourquoi, lorsqu'il posait son regard d'historien non partisan sur le Québec, il était très pessimiste. Séguin ne discernait pas au Québec cette soif de liberté, non pas culturelle ou économique, mais politique. Les Québécois ont des chaînes en or, disait-il, avec son disciple Denis Arcand, mais des chaînes quand même. Le plus grave pour Séguin, c'était que le Québec, incapable de s'assimiler entièrement pour accéder au levier du pouvoir ni de s'assumer pleinement en recouvrant sa liberté, était ainsi condamné à la médiocrité et au provincialisme. Détrompons-nous, le regard tranchant de Séguin n'est pas celui d'un militant, c'est celui essentiel d'un observateur lucide. Comment ne pas penser que le Québec d'après 95 ressemble étrangement à ce qu'avait annoncé Maurice Séguin? Écossais, Catalans et Québécois feraient bien de méditer longtemps le sens de chacun des mots de cet historien méconnu. C'est non. On se dit à la prochaine. Guy Laforêt est professeur au département de sciences politiques de l'Université Laval et il avait rédigé cette lettre parue dans Le Devoir ce matin avant que l'on sache que le non l'avait emporté. Et il écrivait, Guy Laforêt, « Si le non l'emporte en Écosse, il pourrait y avoir un autre référendum dans 7 ans. Le droit britannique fonctionne par précédent. Or, il y a un précédent semblable dans l'accord de Belfast, connu aussi comme l'accord du Vendredi Saint. Il s'était en avril 1998 entre les groupes et partis en conflit en Irlande du Nord. Cet accord prévoit qu'il pourrait y avoir un référendum en Irlande du Nord à propos du rattachement de celle-ci à la République irlandaise. En cas d'insuccès, l'accord dit qu'il ne pourrait y avoir d'autres consultations semblables avant 7 ans. En Écosse, sous le leadership de l'ex-premier ministre britannique, l'Écossais Gordon Brown, les 3 partis unionistes britanniques, à savoir les conservateurs de David Cameron, les travaillistes d'Ed Miliband et les libéraux-démocrates de Nick Clegg, s'engagent à donner rapidement des pouvoirs additionnels à l'Écosse. Et ça, c'est toujours si le non l'emporte. Il va donc falloir surveiller, dès ce vendredi et ce lundi, le calendrier parlementaire et gouvernemental à Westminster, permettant d'opérationnaliser les promesses visant à donner des pouvoirs additionnels à l'Écosse dès 2015. Si le non l'emporte, et on sait que le non l'a emporté. José Legault aussi a écrit avant de connaître le résultat. C'est dans le journal de Montréal cette fois-ci. Ça s'appelle « Le champ de mine ». Voici le début de sa chronique parue aujourd'hui, en ce 19 septembre 2014. Happé par le suspense d'une campagne référendaire aux résultats imprévisibles, bien des Québécois se sont sentis devenir écossais par procuration. Au moment d'écrire ces lignes, leur réponse reste à venir. Que le oui ou le non l'emporte, le temps permettra d'en décanter les effets pour les Écossais et le Royaume-Uni, mais aussi pour les Catalans et les Québécois. Au Québec, l'air du temps n'est toutefois pas celui de l'Écosse. La défaite cinglante du Parti québécois en témoigne. Autrefois, la locomotive du mouvement souverainiste, le PQ s'est rendu obsolète par ses nombreux virages, sans destination autre que sa quête du pouvoir pour le pouvoir. Il n'y a donc rien d'étonnant, dit José Legault, avoir autant de Québécois s'intéresser à la persévérance, la clarté et la finesse de la campagne écossaise pour le oui. Qu'elle gagne ou non, l'effet de contraste avec un PQ piégé par son propre flou est tout simplement saisissant. C'est la musique de Braveheart, pour ceux qui se posaient la question, que mon ami Martin Dupuis a trouvé quelque part au fond d'une boîte. Une boîte qu'on nomme ordinateur. « Le nom prend les devants », écrit Yves Boisvert ce matin dans la presse. Il n'y avait que 4 petites régions sur 32 à avoir complété leur comptage au moment de mettre sous presse, mais le nom semblait avoir le vent en poupe. Les projections pour ces régions laissaient entrevoir de bien meilleurs résultats pour le oui, qui était à 42% après ces résultats fragmentaires. Si on ne se fiait qu'à l'atmosphère électrique, au Square George à Glasgow, toute la journée ou dans les pubs d'Édimbourg, ouvert exceptionnellement toute la nuit ou encore dans les réunions publiques ces derniers jours, on avait l'impression d'une victoire certaine pour le oui. Les drapeaux écossais, les écussons du oui sont partout, ceux du non pratiquement invisibles. C'était à se demander si les sondages, pourtant unanimes à donner le non gagnant ces derniers jours, n'étaient pas tous erronés. À Édimbourg, quelques centaines de partisans du oui s'étaient réunis dès la fin du vote devant le Parlement écossais pour boire et chanter, en attendant les résultats. Beaucoup de drapeaux écossais, quelques kilts, mais aussi une sorte d'assemblée informelle d'indépendantistes de toute l'Europe. Ils sont venus de Catalogne, du Pays Basque, de Bretagne, de Corse, de Sardaigne pour exprimer leur solidarité. « J'ai donné 700 livres au Yes, à peu près 1 300 $, dit Gething Jones, 36 ans, venu du Pays de Galles, nation de 3 millions qui a aussi obtenu son Parlement. Nous, il est trop tard, on ne fera pas l'indépendance. On va se faire foutre dehors par le Royaume-Uni. » Dans un pub tout près, un couple de Québécois prenait une bière après avoir fait du bénévolat pour le oui toute la journée. On distribuait des dépliants du oui et à voir la réaction des gens dans notre bureau, il n'était pas très oui, dit Jean-Denis, 49 ans de Montréal. Dans le camp du non à Glasgow, l'ambiance était à l'optimisme et à la prudence. Rassemblés dans un hôtel du centre-ville, politiciens et militants de la campagne Better Together attendaient fébrilement les résultats du vote, pendant qu'on faisait jouer « Come Together » des Beatles en guise de chant de ralliement. Personne n'osait crier victoire trop vite, malgré un ultime sondage officiel qui plaçait le « non » en avance à 54 contre 46 à la fermeture des bureaux et qui semblait se confirmer par les résultats. « Le sentiment général est qu'on va gagner. On l'a senti sur le terrain », a dit Alison, militante du Parti travailliste, en caressant son collier aux couleurs du drapeau écossais. « Mais ça va être serré. » « Je suis anxieux », a ajouté Fraser, 17 ans, qui venait de voter pour la toute première fois. « Je pense qu'on a été complaisants. On pensait que ce serait dans la poche et maintenant, on ne sait plus trop. » Pour la plupart, c'était surtout l'inquiétude du lendemain. Quels impacts en cas de victoire du oui ? Pour tous ces partisans de l'Union, le tableau d'une Écosse indépendante s'annonce sombre. La livre, les taux d'intérêt, les prix, ce sera un énorme pas dans le noir, a lancé Frankie, un militant. « Ce qui nous inquiète, c'est surtout l'ampleur des conséquences », a résumé Alison, pas seulement économique, mais sociale. Cette campagne a divisé les gens. À 2 h du matin, les premiers résultats ont commencé à tomber. Non dans Clackmanshire, non dans les îles Orkney, non dans Shetley. Dans la salle, les cris de victoire ont résonné. Beaucoup respiraient plus à l'aise. Jean-Simon Gagné écrit dans Le Soleil. En fait, il nous présente un petit peu le déroulement de la nuit. Il écrit « Le camp du non à l'indépendance de l'Écosse se dirigeait vers une victoire certaine cette nuit avec 54% des suffrages contre 46% pour le oui. Le non semblait même en voie de dépasser légèrement le score que prédisaient les derniers sondages. L'extrême lenteur du dépouillement du vote aura empêché quiconque de crier victoire avant que la nuit ne soit très avancée. Le non a d'abord causé la surprise en l'emportant dans le bastion nationaliste du Clackmanshire, au centre du pays, mais le oui a rétabli l'équilibre en récoltant 57% des suffrages dans la ville de Dundee, l'un de ses châteaux forts. Pendant quelques minutes, moins de 2% des suffrages séparaient les deux camps, ce qui rappelait le scénario d'un certain référendum québécois, le 30 octobre 1995. Par la suite, écrit Jean-Simon Gagné, le non a creusé l'écart. Dans l'ensemble, il l'emportait dans 22 des 26 régions où le vote avait été comptabilisé. Les partisans de l'indépendance ont toutefois reçu un formidable prix de consolation en obtenant 53,5% des suffrages à Glasgow, la plus importante ville d'Écosse. En attendant le résultat final, les uns et les autres pouvaient s'enthousiasmer devant la ferveur des électeurs qui se sont déplacés en grand nombre pour aller voter. À 84%, le taux de participation atteint des sommes rarement vues en Écosse. À titre de comparaison, il se situait à 63,8% lors des élections générales en 2010. Le dévoilement des résultats s'est fait au compte-gouttes. Toute la nuit, nous raconte Jean-Simon Gagné, ce qui a fait durer le suspense ou le supplice, selon vos préférences. Les premiers résultats officiels n'ont été dévoilés que vers 00h30, heure locale. À 1 h, plus de 3 h après la fermeture des bureaux de scrutin, À peine plus de 1% des résultats avaient été dévoilés. Malgré tout, il a fallu attendre 4 heures du matin, 0h15 heure du Québec, pour que la BBC donne la victoire au non. Interminable. La soirée électorale a été marquée par quelques bévues comiques. Dans la frénésie ambiante, CNN Europe s'est mis à afficher un score étonnant. Oui, 58%, non, 52%. Une bourde qui a permis à un habitué de Twitter d'affirmer que la chaîne mondiale déclarait son indépendance vis-à-vis des mathématiques. À défaut de pouvoir compter sur des résultats rapides, l'univers des médias sociaux ressemblait parfois à un serpent qui se mordait la queue. J'observe des analystes qui parlent de Twitter à la télé et qui expédient en même temps des messages sur Twitter pour dire qu'ils parlent de Twitter à la télé. C'est édifiant, a raillé un journaliste d'Édimbourg, Tom Peterkin. N'exagérons rien. Personne n'a pu égaler la futilité du reportage fleuve rédigé par le Daily Record à propos d'un homme à qui s'est fait servir un morceau de poulet frit ayant exactement la forme de la Grande-Bretagne, amputée de l'Écosse. Dès l'annonce des premiers résultats en faveur du non, la valeur de la livre sterling a bondi sur les marchés asiatiques. Il faut dire qu'au cours des derniers jours, les grandes institutions financières avaient joué à se faire peur. Les banques avaient même laissé filtrer qu'elles avaient acheminé des stocks de billets de banque supplémentaires en Écosse pour parer à une éventuelle panique. Il est vrai que chaque camp s'était employé à dramatiser au possible la situation. Le chef du non, Alistair Darling, a martelé que si l'Écosse vote pour l'indépendance, il n'y aurait pas de retour possible en arrière. De la même manière, le chef du oui, Alex Salmond, a semblé écarter la possibilité d'un second référendum. La veille du vote, le camp du non a paru jouer la carte d'une éventuelle partition de l'Écosse advenant un oui. Le secrétaire d'État britannique chargé de l'Écosse, Alistair Carmichael, a suggéré que les îles Shetland, très riches en pétrole, pourraient déclarer leur propre souveraineté plutôt que de se retrouver dans une Écosse indépendante. Mais le camp du oui n'a pas été en reste. Quelques heures avant l'ouverture des bureaux de vote, le joueur de tennis Andy Murray, champion olympique à Londres en 2012, a expédié 2,7 millions d'abonnés de son compte Twitter à 2,7 millions d'abonnés de son compte Twitter un message sans équivoque. Faisons-le. Cette Madame Laura Risk que nous entendons joue du violon fort bien et elle se spécialise, m'a dit ma camarade Christiane Campagna, dans dans le Scottish, quoi, finalement, dans la musique écossaise. Alors, Melting Pot, je vais le dire, à l'écossaise, écrit Patrick Duquette dans Le Droit ce matin. C'est le dernier papier sur l'Écosse que je vous lirai. Il y a des choses qui ne s'inventent pas, comme celle-ci. Les Écossais d'Ottawa s'étaient rassemblés hier soir dans un bar irlandais de la petite Italie pour suivre en direct la couverture du référendum dans leur pays. Pour ajouter à la confusion des nationalités, la dame de la Ottawa Scottish Society qui accueillait les gens à l'entrée était irlandaise. D'ailleurs, Tracy Cook trouvait très comique ce mélange de nationalités. Ça fait très Canadian, ce genre de choses, non? A-t-elle rigolé? Le bar de la rue Preston s'est rempli d'Écossais en un rien de temps. Plusieurs avaient revêtu le kilt traditionnel avec les gros bas de laine blanc. Il y avait des cornemuses, de la bière en masse et bien sûr du whisky, une des richesses nationales de l'Écosse. La soirée promettait d'être longue, les résultats finaux du référendum n'étant pas attendus avant le petit matin aujourd'hui. Mais on ne s'ennuyait pas, au contraire. Un groupe de musiciens mettait de l'ambiance dans la place, avec de la musique traditionnelle en gaélique bien sûr, mais on a eu le droit, aux surprises, à une interprétation bien sentie de « Si le vin est bon en français, décidément, le multiculturalisme canadien est fascinant ». Les Écossais s'étaient organisés un petit référendum « Just for fun », a déclaré Tracy Cook qui distribuait les bulletins de vote à l'entrée. Je me suis mis à faire le tour des tables. « Yes or no, sir ?» Non, a répondu Andrew Miller en français. Il fallait bien que je tombe sur un Écossais originaire de Trois-Rivières qui s'exprime très bien en français. D'ailleurs, M. Miller incarne très bien le dilemme écossais. Il est d'ascendance écossaise par son père et britannique par sa mère. Un peu de oui et un peu de non coule dans ses veines. En plus, je suis un Québécois qui vit en Ontario, rigole-t-il. Bref, il a voté non au référendum, just for fun, parce qu'il craint les conséquences d'une sécession sur l'économie écossaise. Il redoute aussi qu'une victoire du oui ravive les ardeurs souverainistes au Québec. Son vieux copain de l'Université d'Ottawa, Robert Farquharson, a voté « yes ». Les ancêtres de son clan, m'a-t-il raconté, se battaient en première ligne contre les Anglais. Il y a de cela des siècles. Si les Écossais ne saisissent pas l'occasion dès maintenant, ils vont le regretter. L'occasion ne se représentera pas de sitôt. À une autre table, Mary Stuart s'était drapée dans un drapeau écossais. Alors, yes or no? Elle, c'est un yes d'aplomb. D'ailleurs, c'est une vraie Écossaise d'Écosse qui vit au Canada. Elle avait un accent à couper au couteau, cette façon d'accentuer les O, comme dans « Unless you reside » ou « reside », j'en sais rien, « in Scotland, you can't vote ». Sa copine, Catherine Barclay, est encore plus yes qu'elle. « T'as vu le film Braveheart, m'a-t-elle lancé? Ben, c'est ça. Ça fait des siècles que les Anglais nous ont volé notre liberté. On veut la retrouver. On veut décider par nous-mêmes, plutôt que de se faire dicter notre conduite par Westminster. » Aussi de nationalité écossaise, Andrew Mackenzie est arrivé au Canada voilà 7 ans. Il y a trouvé l'amour, son épouse est canadienne. Et lui aussi, c'est un yes. Don Comer avait revêtu l'habit traditionnel de ses grands-parents écossais arrivés en Alberta dans les années 20. Il refusait de me dire s'il voterait yes ou no. Allez, M. Comer, chose certaine, l'Écosse ne sera plus jamais la même après ce référendum. En mieux ou en pire, M. Comer? En tout cas, le Royaume-Uni est l'un des pays les plus performants du monde et... Je l'ai interrompu, dit Duquette. Vous venez de parler comme la reine Elisabeth, là. Il a ri. C'est M. Comer, justement, qui a dévoilé les résultats du référendum, Just for Fun. Alors ça a fini 76 à 71. Pour le yes ou pour le no? Alors? Pour le yes.